Vous êtes sur Europe 1, on vous invite ce matin à bouger, à prendre pleinement possession de votre corps pour être bien dans vos baskets, mais aussi dans votre tête. On va y venir avec nos invités dans quelques minutes. Mais avant ça, c'est Clément Lanoux qui s'est questionné à sa façon sur ce sujet, j'imagine. Bonjour.
Exactement,
Clément.
Exactement, un vrai spécialiste. Bonjour tout le monde. Comment prendre soin de son corps et de sa tête en même temps? C'est la question que je me suis posée ce matin. Première réponse, vous partez en forêt avec un bouquin. J'ai essayé, j'ai lu 3 pages, je suis revenu avec une entorse. Ce n'est pas la bonne solution. On dit souvent bien dans sa tête, bien dans son corps, mais face à l'action, face au mouvement, je suis désolé de vous l'apprendre, mais la nature a créé 5 types de personnes. C'est en tout cas ce que j'ai quantifié. Numéro 1, les sportifs. Numéro 2, les hypersportifs. Numéro 3, les gens normaux. Numéro 4, les feignants. Numéro 5, très peu connus, les hyperfeignants. On va y revenir. Dans quelle catégorie, Mélanie, Julia, vous pensez être déjà?
Au milieu, moi.
Milieu, les gens normaux?
Ouais. Moi, je suis un peu feignasse.
On va voir. Alors, j'ai
milieu,
de quoi le définir.
Milieu, voire en train de devenir sportif.
Alors, vous allez voir. On va le définir et peut-être ça va vous aider. L'hypersportif, on le connaît. Hein. C'est celui à qui, quand on parle de sport, il te dit non, mais le sport, non, mais moi, c'est une drogue. C'est une drogue. Franchement, je suis tombé dedans. Je ne peux plus m'arrêter. Je ne peux plus m'en passer. Et tu verras, c'est addictif. Au bout de 2 mois, tu n'arriveras plus à t'en passer. Ça fait 10 ans, je m'en passe très bien. Je vous remercie. Numéro 2, c'est le sportif. Le sportif, on le reconnaît. C'est celui qui va bosser en vélo, même quand il y a de l'essence. Assez surprenant, je ne comprends pas. Numéro 3, les gens normaux. Donc peut-être que vous êtes là, c'est ceux qui s'inscrivent à la salle vers le 4 janvier et qui le 6 février disent oh, « faut que je me remette, ça fait 3 semaines, j'y suis pas allé. » Voilà, et qui n'y retourneront évidemment pas du reste de l'année. Ensuite arrivent les feignants. Alors le feignant, c'est ce copain qui vient t'aider à déménager par bonne conscience et au moment où il dit « ah, t'as pas l'ascenseur ?» qui, une fois là-haut, au 5e étage, te dit « oh, ce canapé, il n'ira pas du tout dans ton prochain appart. Viens, on le laisse. Allez, on le laisse. Ouais, puis ça va faire plaisir aux locataires. Ils vont arriver, ils auront un canapé, ok. Et puis, l'hyperfeignant, c'est celui qui, même en télétravail, est capable de poser sa journée juste parce qu'en fait, le chargeur de son portable est dans le salon, lui, dans le lit. C'est celui qui regarde essentiellement TF1, juste par flemme d'aller chercher la télécommande. C'est celui qui boit son thé tiède parce que, bon, il faut retourner au micro-ondes. J'ai beaucoup trop d'exemples pour celui-là, je ne sais pas pourquoi.
Ouais, c'est
alors,
bizarre.
C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute, vous allez voir, parce que dans notre vie, on a tout entendu. Un petit, moi j'ai entendu, mais arrête de bouger, mais tiens pas en place, calme-toi. Voilà, ne cours pas à l'intérieur, attends-moi, assieds-toi, reste sage, arrête de bouger, on ne touche pas à tout. Donc évidemment, en grandissant, eh ben on fout plus rien. Voilà. Et puis en grandissant, après on lui dit, allez, faut bouger, faut marcher, c'est important, il y a même des applis qui comptent le nombre de pas qu'on fait. Oui, alors là c'est pareil en fait. Il est important de faire du sport, mais selon sa catégorie. Donc par rapport aux 5 catégories, je vous ai trouvé 5 sports qui correspondent parfaitement. Si vous êtes donc l'hypersportif, il y a le trail. Le trail, ouais. C'est fabuleux. C'est toujours celui, quand tu lui dis ça va, il dit oh, ouais, je prépare le marathon de Paris, là c'est incroyable. Numéro 2, le sportif classique. Hein. Là je vous conseille hand, basket, tennis, foot. Bon. Une grande partie. Les gens normaux, plutôt le yoga. Voilà, ça c'est normal. Il y a juste un petit tapis à transporter. On arrive au boulot sans transpirer. C'est pratique. Le fainéant, il y a une petite option, le yoga Bikram.
Même
chose
chaleur.
Que le yoga, on monte le radiateur juste pour transpirer. Truc de fainéant. Et puis il y a l'hyperfeignant, son sport c'est la sieste, hein. Il est abonné à Canal+, Bein Sport, Prime Video, Eurosport. D'ailleurs il se dit mais pourquoi la sieste ne devrait pas être connue comme une activité, comme une discipline olympique? C'est vrai que dormir ça fait maigrir apparemment, ça demande aussi de l'entraînement, de bien dormir, on l'a vu dans une des émissions.
Ici,
voilà.
Ouais.
Et puis pour une fois on aurait plein de médailles. Quoi.
Oh là là, merci Clément Lanoux.
Il est inspiré ce matin.
Oui,
hein.
Je me demande dans quelle catégorie vous êtes.
Oh, je pense que je vous laisse, j'ai un trail.
Bon, c'est okay. Ça. Merci pour cette petite introduction, on va à présent donner la parole à nos invités de ce mercredi. D'abord vous, Lucie Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste et vous êtes autrice de ce livre « Tout commence avec le corps » qui est paru chez Odile Jacob. Avec nous également ce matin, Grégoire alias Major Mouvement, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes le kiné préféré des Français sur les réseaux sociaux et vous avez également publié ce livre « Le grand guide pour soigner vos douleurs », il est paru chez Marabout. Alors d'abord une question pour vous deux, hein, pour commencer. Est-ce qu'on est assez à l'écoute, à votre avis, de notre corps à notre époque? Déjà, selon vous, Lucie, et après selon vous, Grégoire, est-ce qu'on s'écoute suffisamment?
Mais de toute évidence, non. Je pense qu'on va être tous les deux assez d'accord là-dessus. Je dirais même plus loin, je pense qu'en bout de son corps, on ne veut plus le connaître. C'est un petit peu le cousin honteux qu'on ne veut pas montrer et qu'on cache et dont on parle un petit peu à dénigrement.
Et vous, Grégoire?
Moi, je dirais qu'il y a 5 catégories de personnes.
Ah, il a commencé.
Et je pense que... En vrai, vous avez très bien résumé, il y a les extrêmes qui ne s'écoutent pas, les trop sportifs qui pensent que le sport c'est bon mais ils sont dans l'excès, les pas du tout, les très feignants qui ne bougent pas assez, les modérés qui font en fonction de leurs humeurs, de leurs capacités et les moyens. Et je pense qu'en fait, vraiment, à différents moments de nos vies, on peut être ces différentes personnes-là, mais globalement, en effet, c'est vrai qu'on n'a plus accorder d'importance à des conseils d'experts qu'à nos propres sensations.
Lucie Vincent, on oppose souvent hein, la tête et le reste du corps. On dit l'esprit et le physique, les bras et le cerveau, les jambes et la tête. Et pourtant, pour vous, vraiment, tout ça, c'est lié. Ils sont indissociables, vraiment ?
Mais tout à fait. D'ailleurs, je dis dans le livre, on n'a jamais vu un cerveau se promener seul dans la nature. Hein. Ils ne peuvent pas vivre indépendamment l'un de l'autre. Et quand on connaît un petit peu les mécanismes, on sait que le cerveau, ça commence dans le corps. Il y a plein de récepteurs qui réceptionnent ce qui se passe dans le monde extérieur, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et tous ces récepteurs sont liés très fortement par des voies nerveuses et par des hormones au cerveau. Donc, c'est un ensemble.
Grégoire, vous avez consacré votre dernier livre à la douleur. Déjà, c'est quoi une douleur concrètement ? C'est un signal du corps que ça ne va pas quelque part, mais c'est pas toujours là où ça fait mal. C'est ça qui est curieux quand même.
Ouais, en fait, la douleur, c'est une information. Au même titre que le goût, vous pouvez très bien, par exemple, penser que vous allez boire un jus d'orange. Pas de chance, c'était un jus d'ananas. Et votre cerveau, il ne comprend pas au départ. Donc en fait, la douleur n'est pas toujours liée à l'atteinte ou le dégât d'un tissu. Et même souvent, en fait, la douleur apparaît avant les dégâts. Typiquement, c'est le cas pour le mal de dos. Mmh. 95% des maux de dos évoluent favorablement, spontanément.
Sans médicaments, sans vous, les kinés, sans rien ?
Globalement, ouais. En fait, il y a 5% des... Alors, on sert principalement aujourd'hui, on le sait, à avoir le bon discours et à être rassurant. À éliminer quand parfois ça craint. Ça arrive que ça craigne. Dans 5% des cas, il y a une vraie pathologie, une fracture, une pathologie inflammatoire sous-jacente. Ça, c'est notre job de le diagnostiquer avec les médecins, évidemment. Mais une fois qu'on élimine ce qui craint, on commence à mettre en place ce qui va bien. Les grandes recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est discours rassurant, plus ou moins... la kiné, de la thérapie manuelle, de l'ostéo quand c'est nécessaire, parce que parfois, un muscle peut faire mal, et de l'activité physique.
Mais nous, on vous aime beaucoup quand vous nous massez quand même aussi, hein.
Oui,
c'est important.
Oui, ça, bien sûr.
Julien, bah, les kinés. Ah oui, j'ai cru que Grégoire...
Oui, alors on a un truc à vous avouer. En fait, je suis là depuis 9h du matin, j'ai massé toute l'équipe.
C'est vrai qu'on est très détendu aujourd'hui. Bon, merci à tous les deux, vous restez avec nous dans Bienfait pour vous. On parle ce matin, je suis toute rouge, ça y est. On parle ce matin de l'importance du corps, comment le soulager quand il est douloureux, comment le renforcer, d'autant plus qu'il serait à la base de tout. Être à l'écoute de nos sensations corporelles, ce serait excellent aussi pour notre cerveau. On va vous expliquer tout ça dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, bien-être, dans lequel on met le corps au centre de toutes nos préoccupations ce matin. C'est la voie en tout cas que nous montrent nos deux invités du jour, à savoir Lucie Vincent, neurobiologiste, et Grégoire alias Major Mouvement, le kiné préféré des Français. Alors Lucie Vincent, au tout début de votre livre, vous nous recommandez de commencer par nous étirer plus régulièrement. C'est curieux comme conseil, je trouve, venant d'une neurobiologiste. Pourquoi cette recommandation d'étirement ?
Mais parce que tout commence dans le corps et si on veut faire marcher le cerveau, il faut le stimuler par des mouvements adéquats dans le corps. Alors je conseille au lecteur, avant de commencer la lecture du livre, de se lever, de s'étirer, d'être rassuré qu'ils ont mangé il y a quelques heures, qu'ils n'ont pas faim, qu'ils n'ont pas sommeil, qu'ils n'ont pas soif, parce que toutes ces influences sont importantes pour libérer l'attention, le focus dans le cerveau. Et si on ne fait pas attention à toute sa physiologie pour savoir qu'on est dans une zone d'équilibre, hein, eh bien, on ne peut pas commencer à prêter attention. D'ailleurs, je parle des effets scolaires, hein, de ce principe de base. Un élève ne peut pas commencer à apprendre s'il a sommeil, s'il a faim, s'il a soif. Et s'il commence à la puberté à être très attiré par le sexe opposé. Tous ces facteurs physiologiques sont très importants. Et tant qu'on ne les a pas assouvis, eh bien, on n'a pas libéré toutes les zones de concentration, de mémoire, de captation dans le cerveau.
Mais c'est tellement vrai.
Disons plus intellectuel, d'où mes conseils.
Dites-moi Grégoire, je crois que les étirements, c'est votre truc. Comment on fait pour bien s'étirer, pour se détendre si besoin ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, je ne sais pas moi, un ou deux exercices simples ? Je vous rappelle qu'on est à la radio, donc pas d'excentricité. Voilà. Soyez descriptif. Excentrique si vous voulez, mais descriptif.
Déjà, je suis flatté quand Lucie parle d'intellectuel, que vous retourniez vers moi. Vraiment, mon égo a pris un beau boost.
Elles ont bien compris les rôles. Oui.
Alors, sur les étirements, j'aimerais bien dissocier le travail d'étirement qui est très bon pour le cerveau et qui fait du bien aux hormones, qui fait du bien au corps, et l'amplitude de mouvement. Ce qui freine le plus les gens à s'étirer, c'est la sensation d'échec. Ah, je m'étire pas parce que quand j'essaye, je me sens raide et j'ai l'impression d'être une grosse quiche et du coup, je ne le fais pas. Je le rappelle, petite information intéressante, les gens souples ont autant de douleurs que les gens raides. La raideur ou la souplesse n'est pas un pronostic de douleur. Vraiment, en fait, on est tous avec une base génétique différente. Certains sont très souples, d'autres sont très raides et tout est OK. Donc, si vous éprouvez le besoin de vous étirer, en effet, vous allez avoir beaucoup de bénéfices juste à avoir ce temps de connexion avec votre corps. Du coup, je botte en touche depuis tout à l'heure et je gagne du temps avec les grands bras. En fait, aujourd'hui, le meilleur étirement, c'est celui que vous faites. Le meilleur mouvement, c'est celui que vous faites.
Qui nous fait du bien et on le sent.
Et là, je vous vois, en fait, vous êtes en train de faire des mouvements qu'on peut faire instinctivement.
Moi, je le fais dans mon lit au réveil, comme un chat.
Il y a un truc qui... L'autre jour, je suis rentré tard et mon fils de 4 ans était en train de dormir et j'aime bien lui remettre son doudou sur le nez. Et systématiquement, il a le même réflexe. Quand il le prend, il l'attrape et après, il s'étire. C'est des mouvements innés et c'est probablement les meilleurs mouvements qu'on puisse faire instinctivement. Je vous vois en train de bondir,
Lucie. Vous confirmez, Lucie, oui.
Ah, mais je suis totalement d'accord avec ce que dit Grégoire.
J'avais dit que j'étais l'intellectuelle de la banque. C'est la première fois que ça m'arrive en 35 ans, j'en profite.
Mais je voudrais relever quelque chose qu'il a dit sur le fait qu'on pense qu'on ne va pas y arriver et donc on laisse tomber. Et il a dit les gens qui savent faire ont autant de douleurs que les autres. Et je rajouterais que les gens qui savent faire ont commencé par ne pas savoir faire. Et tout est question d'entraînement. Et ça, on parle de la mémoire des muscles. En fait, c'est le cerveau qui marche. Quand on est en train de faire des mouvements coordonnés avec des muscles différents dans le corps, on est en train de créer de nouveaux réseaux neuronaux. Et ça, c'est un travail progressif. Et c'est extrêmement important.
Alors, si j'ai bien compris, bouger son corps, ça stimule ce qui se passe dans notre cerveau. Est-ce que ça stimule aussi, je ne sais pas, notre intelligence, par exemple? Est-ce que bouger, parce que Grégoire apparemment est l'intello de la bande, il bouge beaucoup. Donc, Lucie, qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Mais au moins, la confiance en soi, ça booste un peu, non?
Oh là là, c'est essentiel. Je pense que, si je peux me permettre de raconter une petite anecdote, moi, j'ai commencé à danser il y a seulement 8 ans. Donc, c'est très tard dans la vie. Et quand j'ai commencé à faire de la danse de salon, de manière assez intensive, je fais tous les jours, je me suis rendu compte très rapidement que ça avait des effets importants sur le corps, sur le contrôle, l'équilibre, l'agilité, la souplesse, mais aussi, très très important, la confiance en soi. Et quand j'ai discuté avec les autres élèves de mon âge à l'école de danse, et je leur disais, oui, la danse, vous aimez, ça vous fait quoi? Tout le monde était unanime, c'est la confiance en soi. Et c'est un petit peu ça qui m'a relancé dans les études bibliographiques sur les effets du mouvement sur le cerveau. D'où tout le travail que j'ai fait. Et pourquoi la confiance en soi? Mais parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, on commence par ne pas savoir faire. Quand on essaye, on échoue. OK. Mais on continue. Et quand on réussit un tout petit peu, juste quelque chose qu'on ne savait pas faire auparavant, se tenir sur un pied, faire une figure un peu qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours, eh bien, chaque étape de réussite informe le cerveau qu'on ne savait pas et maintenant on sait et on a acquéri une compétence supplémentaire. Et c'est enregistré dans une partie du cerveau qui s'appelle l'insula. Et c'est ça qui informe notre conscience de soi et notre confiance en soi.
C'est génial. Le plaisir de réussir quelque chose qu'on ne savait pas faire. Grégoire, est-ce qu'il y a un sport que vous recommanderiez de votre côté, en particulier aux sédentaires qui nous écoutent? Des étirements et des exercices de renforcement musculaire de votre livre, c'est déjà un bon début pour se remettre en mouvement?
Ce qu'on sait aujourd'hui, le critère numéro un du meilleur sport, c'est celui que vous faites. Et que nous sommes tous différents. Donc vraiment, allez dans un sport dans lequel vous allez prendre du plaisir. Le plaisir, c'est probablement le critère numéro un qui fait qu'on aura de nouveau envie d'y aller. J'entends beaucoup de gens dire, typiquement, mon médecin m'a dit que j'avais des douleurs. Alors, je ne tire pas sur les médecins, mais souvent, c'est le schéma. J'avais des douleurs au niveau du dos, qu'il faut que je fasse la natation. Moi, personnellement, vous me mettez en slip dans du chlore, je me fais chier royalement. Par contre, vous me mettez sur un match de rugby à prendre des coups, je vais prendre beaucoup de plaisir.
Mais si vous avez mal au dos, le rugby, vous êtes sûr?
En tout cas, vous allez faire des tours de terrain, vous allez vous renforcer. Le truc, c'est que c'est vachement individu dépendant, vachement sport dépendant. L'activité physique, le sport, est hautement bénéfique. Maintenant, en fait, il vaut mieux un sport qui ne soit pas parfait que vous faites qu'un sport parfait que vous ne faites pas. Ça, c'est la question individuelle. Maintenant, si vous me posez, genre, c'est quoi le Saint Graal? J'ai regardé des études scientifiques et il semblerait
que ce soit
le yoga.
Ah.
Mais
Avec ou sans chauffage?
Plutôt sans. Importe, mais parce que c'est l'un des rares sports qui comporte en plus une dimension spirituelle. Alors, je suis joueur de rugby. Il y a une dimension
spirituelle, le rugby, oui,
mais souvent entre 2 et 4 heures du matin autour du bar.
Et vous n'avez jamais tenté le yoga, vous, à titre perso?
Si, mais comme je vous dis, j'ai plus une spiritualité. Moi, si on ne met pas un bar
de
et 2, un
4
apéro,
heures du matin.
Moi,
j'ai mal.
Mais le yoga serait le sport qui amène le plus de bienfaits à la fois.
Dans la littérature scientifique, maintenant, chaque individu est différent.
Lucie, on a parlé donc du yoga, de la danse avec vous. On a fait une émission également, parce qu'il y a des gens, quand on leur dit le mot sport, globalement, ça leur hérisse le poil. On a fait une émission sur la marche, ça, on le fait tous les jours. On peut se forcer à marcher un peu plus, c'est de l'activité physique, on va dire. En quoi, je comprends pas bien, en quoi marcher, tout simplement mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre, même si c'est sur quelques kilomètres, en quoi ça va influencer mon niveau de confiance? Comment ça marche techniquement?
En fait, la marche, que si vous regardez tout le monde marcher, on ne marche pas de la même manière. Et il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas convenablement. Je me tourne vers notre kiné.
Je ne dirais pas convenablement, mais je dirais qu'il ne colle pas au standard de ce qu'on pourrait imaginer. Mais en fait, là encore une fois, l'individualité prend le pas sur la norme.
Et je dirais qu'on apprend à marcher quand on a entre un an et 18 mois, et après, on laisse tomber. Notre façon de marcher reste comme ça toute la vie. On ne fait pas un travail d'amélioration de la marche. Et justement, c'est qu'en faisant la danse que je me suis rendu compte que je ne marchais pas avec mes deux pieds. Je marchais sur un pied à la fois, un pied chacun, un tour de rôle. Et en dansant, on se rend compte qu'en utilisant les deux pieds, on se donne beaucoup plus d'appui dans le sol, beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus d'agilité pour se tourner dans des directions différentes. Et donc, c'est cet apprentissage de marche sur les deux pieds que je pense être très important, et c'est pour ça que j'ai donné beaucoup d'exercices là-dessus dans le livre.
Oui. Grégoire, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que là, ce que vous m'évoquez, Lucie, on a comparé des protocoles d'entraînement pour les trailers et ultra-trailers, donc la course d'endurance. Et on s'est rendu compte de l'intérêt du travail de force. Mais vraiment du travail de force, vous soulevez lourd, je parle de 100-150 kilos, y compris pour du travail d'endurance. Pourquoi? Parce que quand on fait du travail de force, ce qu'on va solliciter le plus, c'est le lien entre le cerveau et les muscles. Et du coup, en faisant ça, vous allez développer des meilleurs liens, de meilleures capacités, et en fait, le coût énergétique par foulée va être moins important, tout simplement parce que vous aurez une meilleure organisation de votre cerveau. Comme si vous aviez une bibliothèque qui était sans cesse en bordel, quand vous travaillez de la force, et c'est pour ça que dans mes deux bouquins, je précise, oui, les étirements, c'est bien, mais si vous deviez choisir entre la force et les étirements, travaillez plutôt la force, parce que la force permet d'avoir un meilleur lien entre cerveau et muscle. Et en France, en particulier, on diabolise le travail de force, alors qu'en fait, la littérature est vraiment très très claire là-dessus. C'est probablement l'un des meilleurs bénéfices les plus sous-cotés de la Terre.
Ben on va faire de la gonflette alors.
Moi j'ai commencé, ça y est.
Oui, ce lien entre le cerveau et les muscles, c'est vraiment primordial. Hein. On oublie que les muscles envoient aussi des messages au cerveau. Et chaque nouveau mouvement qu'on apprend, on met en route une boucle que l'on appelle la boucle perception-action. Et quand le cerveau planifie un mouvement, eh bien, en même temps que le muscle commence à l'effectuer, il renvoie au cerveau ce qu'il est en train de faire, et le cerveau fait la comparaison entre l'ordre qu'il a donné et le résultat qu'il est en train de recevoir. Et il fait la comparaison entre les deux pour dire « Ah, il faut ajuster la force de telle synapse pour que ce muscle-là marche mieux que
c'est
l'autre,
dingue,
etc.
Hein »
Et ça aussi, ça se passe dans l'insula, et ça fait partie encore de cette conscience de soi, confiance en soi, d'où la nécessité de faire des entraînements pour la meilleure association corps-cerveau et le meilleur bien-être.
On va la chouchouter, cette insula,
c'est sûr,
on va continuer avec l'insula.
Merci à vous deux, on sera de retour dans quelques minutes. Comment partir de notre corps, d'un corps solide et qui bouge bien, pour faire du bien également à notre esprit? On vous explique tout en détail avec nos invités aujourd'hui. On y revient très vite, alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Tout commence avec le corps, avec nos sensations corporelles, car ce sont bien elles qui activent notre cerveau. Donc on vous guide aujourd'hui pour bien mobiliser justement ce corps grâce aux conseils de nos deux experts, la neurobiologiste Lucie Vincent, ainsi que Grégoire, alias Major Movement kinésithérapeute sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Grégoire, j'ai une question vraiment qui me taraude. J'ai lu dans votre livre qu'avoir des fesses rebondies...
Qui vous taraude, qui vous fait plaisir, oui, soyez honnête.
Écoutez bien ça, Mélanie. Avoir des fesses rebondies, ça préviendrait le mal de dos. Alors, expliquez-nous.
Alors, en fait, avoir des fesses rebondies, comment est-ce qu'on fait pour avoir des fesses rebondies? Au travers du renforcement musculaire, notamment.
Ah, parce que sinon, Julia, elle avait une autre recette, mais ouais. Les frites.
Ça marche. C'est ça. Bien, merci. Alors justement, j'en parle dans mon premier livre et j'en parle aussi, j'ai fait une vidéo YouTube qui est en train de cartonner, elle a fait plus de 500 000 vues et je l'ai sortie il y a 2 mois, sur en fait, nos fessiers sont probablement, au-delà de l'aspect esthétique, l'une des meilleures usines pour notre corps. À la fois quand on va les renforcer de manière non spécifique, le renforcement musculaire c'est bon pour votre corps, vous pouvez pas vous tromper à vous renforcer. En plus de ça, on a montré que sur certaines études, développer les fessiers permet de diminuer les récidives d'entorses de genoux et de cheville pour toute la chaîne montante, membre inférieur, membre sup, et l'activité physique est bonne pour le dos. Donc en fait, vos fessiers, ce sur quoi vous êtes assis au moment où vous écoutez cette émission, c'est probablement, littéralement, l'un de vos meilleurs avantages.
Lucie, vous pensez que renforcer nos fessiers, là on parle des fessiers, mais on peut parler d'autres groupes musculaires, c'est bon pour notre cerveau ça aussi?
Mais totalement, vous n'avez peut-être pas entendu parler encore des myokines.
Non, c'est quoi ça?
Mais il y a 20 ans, on ne savait même pas que ça existait. Et aujourd'hui, on en a découvert plus de 200. Donc c'est énorme comme actualité scientifique. Chaque fois qu'on contracte un muscle, on est en train de libérer dans la circulation toutes ces hormones qui viennent des muscles,
donc,
des myokines, ça s'appelle, mais c'est des hormones et qui interagissent avec le système immunitaire, avec tous les autres organes dans le corps et avec le cerveau et qui agissent sur notre comportement. Alors, utiliser ces muscles, c'est libérer ces myokines. Quand on n'utilise pas ces muscles, on ne les libère pas. Et comme disait un chercheur, le corps commence à mourir de l'intérieur parce qu'il ne reçoit pas, et le cerveau ne reçoit pas, tous ces messages essentiels pour un corps harmonieusement physiologique.
C'est plus major mouvement, c'est major myokine.
Je suis myokinésithérapeute.
C'est génial ça. Lucie, vous parlez dans votre livre, et je crois que Grégoire va être content, du bienfait des massages. Alors pourquoi le toucher est aussi important pour notre bien-être physique et psychique?
Mais il y a deux types de toucher en fait. Il y a un toucher qu'on peut qualifier d'informatif, quand on touche le clavier, les tasses, n'importe quoi, les couverts, le cerveau sait ce qu'il fait avec. Mais il y a un autre type de toucher et ça ne passe pas par les mêmes neurones, par les mêmes récepteurs sous la peau et ça n'arrive pas au même endroit dans le cerveau. C'est le toucher typique du massage. Et alors, il y a les récepteurs en profondeur sous la peau et qui répondent plus particulièrement aux mouvements lents. Mmh. Et donc, quand on fait un massage, on est en train de stimuler ces récepteurs. Et c'est comme si, je ne sais pas Grégoire, hein, si vous êtes d'accord avec moi, c'est comme si on avait besoin physiologique de massage, puisque tout ce système est en place pour les réceptionner et pour envoyer des stimuli de bien-être dans le cerveau.
Bon, en fait, vous êtes clairement, vous avez un métier intellectuel, hein. Je viens de comprendre plein de choses, mais elle nous parle du massage, là, éventuellement se faire masser, mais je crois que vous prenez aussi l'intérêt de l'auto-massage.
Alors, je vais aller un peu plus loin.
Moi, j'aime moins quand je me masse tout seul, je préfère me faire masser, quoi.
Alors, je vais aller un peu plus loin que ça. Je peux prendre 2 minutes pour expliquer ou pas?
1 minute 30.
1 minute 30, ok, 1 minute 30. Je suis masseur kinésithérapeute, le massage est un outil. Et là, c'est plutôt dans mon second livre, Le Grand Guide pour soigner vos douleurs. Le massage répond très bien à des douleurs d'origine musculaire. Mais si on prend un nerf sciatique, on ne peut pas le masser. Si on prend une hernie ischiale, on ne peut pas le masser. Si on prend une névralgie cervico-brachiale, le massage est inutile. Et ça, dans mon second livre, c'est vraiment ce que j'explique. Être capable de mettre un visage sur la douleur qu'on a, avec des questions, ça c'est vraiment, à chaque fois, j'ai mis un arbre décisionnel, et justement, donner la meilleure des réponses. Typiquement, sur la hernie discale, mieux vaut des préférences directionnelles, savoir si c'est plutôt la flexion, l'extension. Sur une névralgie cervico-brachiale, plutôt des mouvements du nerf. Si jamais c'est de la douleur chronique, plutôt une bonne communication et du mouvement non spécifique. Donc en fait, le massage est excellent pour ce que vous avez évoqué, mais c'est clairement pas la réponse
c'est
à tout.
C'est deux choses très différentes.
C'est un outil. Est-ce que le marteau est le meilleur outil? Pour planter des clous, on a difficilement fait mieux. Pour repeindre des volets, c'est quand même pas dingue. Donc en fait, d'un point de vue thérapeutique, mieux vaut un bon bilan, savoir qu'est-ce qui nous fait mal, qu'un mauvais traitement. Le massage est un bon outil, mais pas pour tout.
Lucie, vous avez un exercice pour apprendre à réécouter son corps. Je crois que c'est la méditation en pleine conscience. Et alors ça m'a beaucoup étonnée. Pour vous, c'est carrément un exercice physique. Pourtant, on ne fait rien. J'ai encore médité hier, j'ai rien fait. C'était génial. Hein.
Mais on revient à votre question de début d'émission. Est-ce que les gens sont à l'écoute de leur corps? Et vous savez, on est plus ou moins doués pour écouter son corps. Hein. Il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Il y a des gens qui sont capables de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Par exemple, qui peuvent vous dire leur taux de battement cardiaque de l'instant, juste en le sentant. Et il y a d'autres gens qui sont incapables de le faire. Et les intermédiaires, quand ils s'assoient dans un endroit tranquille et ils font attention, eh bien, ils y arrivent. Et c'est important parce que cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de son corps a beaucoup de répercussions sur la santé et sur le bien-être. Mmh. Et donc, dans le livre, effectivement, je parle de comment est-ce qu'on peut devenir plus conscient. Et je parle aussi de toutes les pathologies modernes qui en découlent quand on n'est pas du tout en relation avec son corps. D'où le fait que la méditation, pour moi, c'est un exercice physique.
Grégoire, vous êtes un adepte, hein, je crois, de la méditation. C'est quelque chose que vous conseillez aussi. Vous avez un exercice justement de scan du corps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut utiliser ça ?
Ça rejoint beaucoup ce qu'évoque Lucie, c'est que tous les matins, quand je me réveille, je prends un peu ma météo intérieure, d'un point de vue physique et d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue énergétique. Mais pas au sens énergétique, d'un point de vue, quelle est l'énergie dans mon corps. Et j'aligne mon énergie en fonction de ma journée, mais aussi en fonction de ma semaine et de mon mois. Pour faire très simple, quand j'ai un mois qui est très 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 chargé et je sens que j'ai peu d'énergie, bah, c'est comme quand je regarde ma jauge d'essence sur ma voiture. Je vais peut-être pas être pied au plancher, je vais m'économiser. Et du coup, ça me permet d'avoir la bonne énergie au bon moment et pouvoir en fait organiser ma journée en fonction de mon état. Je prends ce temps d'écoute quotidiennement.
Bon, ben nous aussi, on va essayer de le prendre, hein, Julia. Et comment votre énergie, là, tout de suite là ?
Moi, elle est bonne, parce que j'ai bien aimé notre entretien, Mélanie. J'ai adoré cette émission, franchement. Merci beaucoup
merci
à vous
beaucoup.
Deux.
Hein. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On a mis le corps à l'honneur, le corps en première ligne. Et pour en savoir plus sur les secrets de votre corps, je rappelle les deux ouvrages de nos invités. Celui de Lucie Vincent, c'est « Tout commence avec le corps » chez Odile Jacob. Et puis le petit dernier de Grégoire, alias Major Mouvement, son titre « Le grand guide pour soigner vos douleurs » paru chez Marabout.